France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
7h39, le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, doit être ratifié aujourd'hui. Il le sera, sauf surprise, par l'Assemblée nationale. C'est aussi prévu un peu plus tard pour le Sénat. Et la France pourrait donc devenir le 14e État membre de l'Union européenne à procéder à cette ratification. Nous recevons ce matin, pour en parler, la commissaire européenne au commerce, Cécilia Malmström. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là dans les matins d'été de France Culture. Avant de parler du CETA, peut-être un point sur l'actualité de la Commission, un mot de cette élection hier à la présidence d'Ursula von der Leyen, chrétienne démocrate, proche d'Angela Merkel, élue de justesse par le Parlement.
C'était assez juste, mais elle a quand même été élue par une majorité. Et c'est historique. La première femme qui va être la présidente de la Commission, c'est quand même quelque chose d'historique.
Le processus qui a mené à son élection a été compliqué, a été difficile. On a suivi tous les rebondissements depuis les élections européennes au sein du Conseil, notamment. Ça a suscité des tensions et ça a créé des divisions au sein de l'Union et des instances. Vous les voyez comment, ces divisions ?
Oui, enfin la Commission actuelle regarde ça du côté un peu quand même. Et c'est vrai, il y a c'est au Conseil de décider sur un candidat et c'est pour le Parlement de le confirmer. Et après, il y avait toute cette histoire de Spitzenkandidat.
Qui a été mis par terre, du coup.
Qui a été mis par terre parce que, bon, beaucoup pensent que c'est un système pas complet. On ne peut pas voter pour les candidats, les électeurs européens. Ne pouvaient pas voter pour les Spitzenkandidat. Ils peuvent voter par des partis, mais je pense que dans mon pays, par exemple, très peu de personnes connaissent les Spitzenkandidat. Donc, le Conseil et beaucoup de premiers ministres ont pensé que c'était peut-être pas la solution idéale pour sélectionner un candidat. Alors que le Parlement, décidément,
Ça a peut-être expliqué quand même un regain de mobilisation sur cette dernière élection européenne.
Les Spitzenkandidat, non, je pense pas. Je pense que c'était surtout...
C'était en tout cas une volonté de démocratiser un peu
l'action. Oui, et l'idée est bonne, mais il faut l'élaborer. Il faut voir, si on n'a pas les listes transnationales, ça devient une mesure pas complète. Ouais. Donc il faut regarder, et d'ailleurs Madame von der Leyen l'a dit hier, qu'elle regarderait ensemble la Commission nouvelle et le Parlement avec les États membres, comment on peut améliorer le système pour la prochaine fois. Parce qu'il faut mobiliser les citoyens. Je pense que les défis, les questions de valeur, la situation actuelle dans le monde a quand même mobilisé les Européens à voter. C'est une bonne chose. Peut-être pas le Spitzenkandidat en soi, parce que très peu de citoyens européens connaissaient ces noms.
En tout cas, c'est terminé maintenant.
En tout cas, c'est terminé. Elle a été élue.
Elle a été mal élue. Alors, sans lui faire offense non plus, Cécilia Malmström, mais elle a quand même, elle est arrivée un peu de nulle part. Est-ce que ce sera une présidente de la Commission faible?
Ça reste à voir. Ça reste à voir. Elle va dessiner avec les États membres son équipe. Il faudra prouver qu'elle est vraiment sérieuse avec toutes les propositions qu'elle a faites. Je pense qu'elle fera un bon travail. C'est vrai que c'est une majorité faible, mais c'est quand même une majorité. Maintenant, il faut essayer de convaincre aussi ceux qui n'ont pas voté pour elle, mais qui sont pro-européens, pro-réformes, qui veulent une Europe forte, qui agisse pour le climat, pour la sécurité, pour les citoyens et tout cela. Il reste à prouver.
Alors pour le climat, justement, elle veut un Green Deal, c'est ce qu'elle a annoncé hier, un peu par surprise d'ailleurs, et un peu pour probablement sauver son élection. Mais elle n'a pas les écologistes derrière elle, par exemple. Encore une preuve d'une possible faiblesse dans les années à venir.
Ça restera pour elle à prouver qu'elle est sérieuse pour mettre la Commission et l'Union européenne déjà dans le monde actuel. Sans l'Union européenne, l'accord de Paris n'existerait pas. Donc on est les plus ambitieux dans le monde, mais il faut aller beaucoup au-delà, bien évidemment. Donc reste à prouver pour elle, avec les autres institutions, qu'on est sérieux, qu'on veut vraiment approfondir et que cette neutralité carbone qu'elle a promis hier...
2050,
oui, que ça serait une réalité. Mais elle ne peut pas le faire seule.
Avant de passer au CETA, et il sera question d'environnement quand on va parler de ce traité entre l'Union européenne et le Canada, un commentaire sur le départ de Martin Selmayr de la Commission, du poste de secrétaire général.
On l'a appris par le média hier. Ouais. Moi, j'étais à Paris toute la journée, donc je ne sais pas plus de ce que j'ai lu.
Vous vous en félicitez?
La commission doit faire un nouveau élan. Donc,
c'était lui ou elle, en gros.
Non, je pense pas, mais c'est quand même raisonnable qu'elle peut former son équipe, qu'elle peut désigner les collaborateurs et qu'il y a un nouveau élan avec la nouvelle commission.
Alors ce CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, négocié depuis si longtemps déjà, et qui arrive à la ratification peu à peu dans les États membres, il est critiqué de toutes parts, ou en tout cas, il est souvent critiqué. Est-ce qu'il est vraiment compatible en France et ailleurs? Est-ce qu'il est vraiment en Italie, en Belgique? On va y revenir, Cécilia Malmström. Est-ce qu'il est vraiment compatible, avec ce Green Deal voulu par Ursula von der Leyen? Et vous disiez, il faut faire beaucoup plus en termes d'environnement au sein de l'Union européenne.
Tout à fait.
Est-ce que le CETA est compatible avec les ambitions affichées?
Oui, bien évidemment. Le Canada, avec le Canada, on coopère dans cet endroit depuis longtemps.
Canada qui n'est pas le pays le plus écologiste.
Non, peut-être pas, mais ce gouvernement a quand même fait beaucoup de pas dans cette direction. Quand l'accord a été signé, l'accord de Paris n'était pas encore fait, donc elle n'est pas incluse dans le texte original. Mais après cela, on l'a corrigé parce que le gouvernement actuel de M. Trudeau, qui est très, très engagé dans l'accord de Paris, donc on a fait un annexe pour attacher au CETA, et CETA est en force provisoire depuis 2 ans. Et on regarde comment on peut, à travers de cet accord et à travers de tous les accords de coopération qu'on a déjà avec le Canada, approfondir notre coopération pour une commerce plus verte, pour une chance technologie verte et des projets de recherche, etc.
Dans le projet de Green Deal d'Ursula von der Leyen, il y a notamment l'idée d'instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne.
Oui.
Est-ce que c'est compatible, je repose ma question dans un autre sens, avec plus de libre-échange en direction de l'Amérique du Nord?
Mais on ne peut pas mettre une taxe carbone seulement vis-à-vis les autres pays si on ne l'a pas intérieurement à l'Union européenne. Ça sera contre l'OMC. Il y a certaines règles énormes internationaux. Il faut suivre le principe de non-discrimination. Moi, je suis tout à fait en faveur depuis des décennies d'une taxe carbone au sein de l'Union européenne. Dans mon pays, la Suède, on a eu ça depuis 30 ans. Ça marche très bien. Et la Suède a quand même une croissance importante. Mais on ne peut pas avoir ça dans les frontières sans l'avoir au sein de l'Union européenne. Mais que cette discussion commence, et je sais que beaucoup de politiciens canadiens s'intéressent à ce projet aussi. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau international.
Comment on fait plus de commerce international, Cécilia Malmström, sans faire plus de dépenses carbone? Comment est-ce qu'on va favoriser les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Nord, faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus pour obtenir de plus en plus de chiffre d'affaires, de croissance, sans que les émissions carbone soient en explosion?
Mais c'est pas
comment vous expliquez ça?
C'est pas le commerce en soi qui fait ça, c'est les transports.
En partie.
Oui, mais c'est les transports.
En grande partie.
En grande partie.
Le commerce est responsable aussi d'émissions, évidemment, de carbone, par les échanges.
Par le transport.
Oui.
Oui, mais les échanges, si un fabrique ou une usine investit au Canada, par exemple, comme Decathlon l'a fait maintenant, il y aura plus d'investissements au Canada, il y aura plus de travaux là-bas, les vélos.
Ce qui est bien là-bas. Pour le Canada.
Non, parce que les vélos,
pour le Canada.
Oui, mais les vélos, les bicyclettes qu'on vend dans cette entreprise qui va ouvrir bientôt à Montréal seront fabriqués en France. Donc, ça donne des travaux en France. Avec ces travaux, on peut avoir
les livrer au Canada.
Oui. Donc, c'est les transports qui fait ça. Donc, il faut coopérer pour faire que les transports maritimes et aériens deviennent plus vertes. C'est ça. Mais arrêter le commerce, il y a beaucoup de commerce qui se font à travers de l'Internet, les services qui se font d'une manière virtuelle. Donc, c'est les transports qu'il faudra attaquer.
Le CETA ne s'occupe pas justement de cette question, de savoir comment est-ce que le transport peut devenir plus vert. Comment est-ce que l'aérien ou le transport maritime
non, ça, c'est pas dans l'accord de commerce, mais on a beaucoup de coopération avec les pays du monde entier pour voir ça. Et qu'est-ce qu'on peut aussi importer? La technologie verte. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui font des technologies qui sont bien pour l'environnement. Donc, on essaye de échanger cette technologie au Canada, en Europe, pour l'utiliser d'une manière ici en Europe ou ailleurs pour améliorer l'environnement, Ça peut être dans les communes ou dans les pays. Mais c'est les transports qu'il faut adresser. Et pour ça, il faut un engagement international. Il faut vraiment mettre les meilleurs cerveaux ensemble pour voir comment on peut vertifier, ça se dit, vertifier les transports.
Verdir.
Mais le commerce, tant que tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous voulez acheter ne se fabrique pas dans le village à côté, il y aura du commerce. Il y a eu du commerce pendant des milliers d'années.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. On ne parle pas non plus de petits villages. Le Canada, de son côté, avec toute la possibilité d'échange en Amérique du Nord et l'Europe, avec son marché intérieur qui est gigantesque, ce ne sont pas des petits villages.
Non, mais tant que tout ce que vous voulez acheter ne se produit pas dans votre village, on fera du commerce.
Bien sûr. Oui. 70 organisations seulement pour les Françaises, mais il y en a aussi en dehors de la France, doutent de ce que le CETA va protéger l'environnement. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ils sont aux côtés d'un ancien ministre d'État en France, Nicolas Hulot. Tout à l'heure, on recevra Mathieu Orphelin qui est du même avis. Il y a énormément de députés en France qui vont aujourd'hui se prononcer contre le CETA. C'est de l'obscurantisme, d'après vous? Ils n'ont pas bien lu les 2000 et quelques pages du traité?
Je suppose qu'un député qui vote a bien lu le texte. Et dans le texte, on peut bien voir ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas dedans. Et l'accord est en force depuis 2 ans.
C'est-à-dire qu'il est déjà appliqué en grande partie, en tout cas pour ce qui concerne les compétences exclusives de l'Union, c'est ça?
Oui, tout sauf l'investissement est en force depuis 2 ans. Le ciel ne nous est pas tombé dessus. Ça marche bien. Le commerce a amélioré, a augmenté. Les produits français ont augmenté leur exportation vis-à-vis le Canada. Ça crée des travaux. Les travaux, c'est important pour payer les salaires, pour pouvoir un état de social qui peut faire toutes ces choses pour protéger l'environnement, pour avoir un état social qui fonctionne. Et il y a des milliers d'entreprises françaises et européennes qui dépendent du commerce extérieur au Canada et ailleurs. Et dans la plupart des pays européens, l'accord de Canada ne crée pas de débat.
Ça a créé de l'emploi. En France, on a des chiffres déjà depuis 2 ans. Est-ce qu'on sait évaluer la façon dont le CETA a joué sur l'emploi?
Je sais qu'il y a eu beaucoup de dévaluations en France qui se sont faites. Je ne les connais pas en détail. Je sais que ça a été discuté dans l'Assemblée. Mais les chiffres que nous avons au sein de la Commission montrent très clairement que les exportations ont augmenté. En moyenne, 7-8% pour la France. En moyenne, mais par exemple dans l'agriculture, 23%, dans d'autres secteurs, 23% de plus pour les fromages, 82% pour le pain, pâtisserie, gâteaux et biscuits. Et tout ça, ça crée des travaux.
Alors, on entendait tout à l'heure François Ruffin, député France Insoumise, dire que ce sont les industries chimiques et pharmaceutiques qui étaient à l'origine de ce traité, et qu'ils avaient mené la danse de manière un peu opaque. Mais du côté des libéraux aussi, en France, on a un peu un front renversé. Certains députés LR vont voter contre, avec des arguments selon lesquels, par exemple, trop de traités bilatéraux pourraient entrer en contradiction avec l'esprit de l'OMC, dont vous parliez tout à l'heure, Cécilia Malmström. Comment vous voyez ça?
Non, c'est tout le contraire. Nous vivons en ce moment avec des énormes tensions dans le commerce. Nous avons une guerre commercial plus ou moins entre la Chine et les États-Unis. Nous avons la Chine qui est en train de faire du dumping, qui subventionne ses industries d'une manière illoyale, qui ne crée pas un level playing field qui est juste. Donc ça, c'est une chose. Les États-Unis sont plus en plus protectionnistes. Ils utilisent des mesures pour protéger leur marché qui sont pas en compatibilité avec l'OMC. Ils nous ont imposé des douanes sur l'acier et l'aluminium. Ils nous menacent avec des douanes sur les voitures et les pièces composées qui toucheraient gravement tous les pays de l'Europe et l'économie européenne. Et ils bloquent certaines désignations des juges au sein de l'OMC pour avoir des résolvements de conflits. Donc Monsieur Trump, il dit ouvertement que le commerce est une mauvaise chose, que les guerres commerciales sont bonnes. Donc il faut montrer dans ce monde que l'Europe et autres pays, comme le Canada par exemple, on est fermement pour le multilatéralisme, pour les règles et les normes internationales, pour la défense, les réformes et la modernisation de l'OMC, et en faisant ces traités bilatéraux qu'on fait, c'est une manière aussi de défendre tout cela.
Et de renforcer le multilatéralisme aussi.
Tout à fait, parce que tout ce qui est dans l'accord de Canada et les autres accords que nous avons faits ou que nous négocions sont en complète compatibilité avec les règles actuelles de l'OMC, mais c'est vrai que l'OMC, comme c'est une organisation qui bouge lentement,
qui est lente,
bah les multilatérales, il y a 164 États membres, on travaille par l'unanimité,
dont la Chine,
elle va au-delà.
Nombre d'opposants au CETA, Cécilia Malmström, ne demandent pas forcément un rejet pur et simple du traité, plutôt un ajournement du vote, éventuellement en vue d'une renégociation au cœur de la polémique, notamment ces tribunaux arbitraux qui choquent beaucoup, accusés de favoriser les entreprises, et d'ailleurs proportionnellement à leur taille par rapport aux États, aux ONG, aux particuliers. Est-ce que c'est donner trop de pouvoir aux entreprises et aux grandes entreprises multinationales, ces tribunaux arbitraux? Qu'est-ce que vous répondez?
Je crois qu'il faut avoir les faits bien décidés ici. L'ancien système pour résoudre les conflits entre une compagnie et un État, par exemple quand il y avait une discrimination ou une change de licence qui était discriminatoire, ça se réglait par un système qui s'appelait ISTS, qui a été fortement critiqué. Moi, j'ai dit déjà à mon installation il y a 4 ans et demi que c'est un système qui est antique, qu'il faut changer. Il y a dans ce monde 3600 traités bilatéraux dans ce cas. La France en a 120. Vous en avez déjà. Donc, il faut réformer ce système pour voir que les États peuvent faire des lois pour protéger leurs citoyens contre l'environnement, des dangers, les consommateurs, qui sont légitimes. Donc, une compagnie ne peut jamais mettre ça en question tant que c'est pas discriminatoire. Et ça, je crois qu'on peut se mettre d'accord. Avec le Canada, qui sont du même avis que l'ancien système ISTS est caduque, qu'il faut le reformer, on essayait de faire quelque chose assez expérimentel. On a réformé le système en soi. On l'a fait beaucoup plus ouverte, on l'a fait beaucoup plus limitée. Il y a un code de conduite pour les juges ou les arbitres. On a introduit des systèmes qui limitent vraiment les possibilités pour faire cela. Et avec le Canada et autres pays, nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre un tribunal international qui remplacerait tous ces milliers d'accords que certains datent des années 60.
Ouais. Le système dont vous parliez, là, c'est les vétos, le système de veto environnemental, c'est ça, pour surveiller les tribunaux arbitraux?
Ça, c'est un accord qu'on s'est mis, on s'est mis d'accord avec le Canada pour faire ça, pour encore renforcer qu'en aucune condition, quand il y a une compagnie qui se plaint, théoriquement, d'une décision qui a été faite par le gouvernement français, européen ou canadien pour protéger l'environnement, que les deux pays peuvent se mettre d'accord pour
dans un comité, une discussion.
Oui, oui.
Ça vaut là tant qu'il y a des gouvernements qui sont plutôt favorables à l'accord de Paris. Quid de l'avenir quand le Canada sera peut-être dirigé autrement par quelqu'un qui a peut-être moins, ou l'Europe d'ailleurs.
Voilà. Sera dirigé entre eux. Uh-huh. Mais les accords internationaux, on les signe pour qu'ils restent longtemps.
Uh-huh. Comment est-ce que vous voyez, de manière un peu plus générale, Cécilia Malmström, la mondialisation se faire à l'avenir? Est-ce qu'il faut changer les logiciels, les méthodes pour cette mondialisation dans les années qui viennent?
Ce qu'il faut faire, la mondialisation, elle est là. Elle a toujours eu lieu. Ce qu'il faut faire, c'est de la maîtriser. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des institutions internationales très fortes. Il faut avoir des règles, des normes internationales. L'OMC, par exemple, il faut faire des accords en toute transparence. Il faut s'allier avec les pays avec qui on partage les mêmes valeurs. Mais il faut aussi davantage faire pour distribuer les biens, les bénéfices de la mondialisation. Et là, il faut faire beaucoup plus au niveau national. C'est les systèmes d'impôts, c'est les systèmes de sécurité sociale, les systèmes de comment diviser les bénéfices internes dans un pays. Et là, je crois, après la crise, on ne s'est pas tout à fait remise encore dans beaucoup de pays pour distribuer les bénéfices. Parce que le commerce en soi est une bonne chose pour l'économie. Mais il faut distribuer les avantages.
Mmh. ne rien faire dans l'opacité, c'est ce que vous venez de dire. C'est ce qui a été fait pendant les négociations du CETA. Vous estimez que ça a été suffisamment transparent ?
Depuis que je suis dans ce poste, l'Union européenne est le négociateur commercial le plus transparent dans le monde. Nous avons des milliers et des milliers et des milliers de documents qui sont en ligne. Est-ce que vous lisez la value ? Ça existe en français ?
Quand le reproche vous est fait, c'est ce que vous répondez, que tout est possiblement accessible.
Oui, tout à fait. Et nous nous engageons avec les citoyens. Nous avons un groupe qui nous conseille régulièrement sous tous les négociations. Un groupe qui est composé des organisations environnementales, consommateurs, les syndicats, les petites et les moyennes entreprises, que moi et mes collaborateurs, on voit régulièrement, plusieurs fois par année, pour discuter avec eux et partager l'état de lieu où on est dans toutes les négociations.
Merci beaucoup, Cécilia Malmström, d'être venue ce matin sur France Culture. Notre prochain invité tout à l'heure sera le député ex-LREM Mathieu Orphelin, opposé hein, par ailleurs à la ratification du CETA. Il votera contre aujourd'hui. Avec lui, nous reviendrons sur la démission hier de François de Rugy, remplacé par Elisabeth Borne. Ce sera juste après le journal de 8h. Cette question maintenant à 8h17. À quoi sert le ministère de l'écologie entre deux cérémonies de passation de pouvoir alors que François de Rugy a finalement annoncé sa démission hier après 6 jours de révélations gênantes sur son train de vie et sa façon d'utiliser l'argent public et que l'importante loi énergie-climat arrive au Sénat. On a appris dans la nuit qu'Elisabeth Borne était nommée en catastrophe à la transition écologique tout en gardant par ailleurs le portefeuille des transports. Avec quelles ambitions et surtout avec quel poids politique, elle ne sera plus visiblement ministre d'État comme l'était François de Rugy. Bonjour Mathieu Orphelin.
Bonjour à vous.
Député du Maine-et-Loire, membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée et ancien membre du groupe La République En Marche que vous avez quitté en février pour protester contre le manque d'avancées suffisantes en faveur de l'environnement, le manque d'efforts de la majorité à laquelle donc vous n'appartenez plus. D'abord un mot sur le bilan de Rugy. On sait que la nature a horreur du vide. Est-ce qu'elle a horreur du bilan de Rugy ?
En tout cas, quelques mois, c'est évidemment, je pense, trop peu pour vraiment marquer les choses fortement. Et évidemment, cette démission de François de Rugy, que je comprends, et je crois qu'au final, c'était sans doute la seule décision possible. Maintenant, il va avoir le temps de s'expliquer, de se défendre. Mais effectivement, des changements aussi rapides de ministre, c'est pas bon pour l'écologie. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de chantiers en cours. Il y a cette ambition écologique nouvelle, en tout cas dans les mots utilisés par le Premier ministre dans son discours de politique générale il y a quelques semaines. Voilà, donc tous ces épisodes, évidemment, ne renforcent pas l'écologie. Ça fragilise l'écologie au moment où on ne peut pas se le permettre.
10 ministres en 12 ans, hein, nous disait tout à l'heure Anne Lorchouin, ça donne le tournis. Pendant ce temps, les lobbies, eux, ils restent.
Oui, les lobbies restent et c'est vrai que c'est un ministère traditionnellement qui a toujours été très compliqué parce que c'est le ministère où on tente de changer les choses, c'est le ministère où en face de soi, effectivement, les ministres ont les lobbies très organisés pour certains dans le monde de l'agroalimentaire, des pesticides, de l'énergie, mais des transports routiers, etc. Il y a évidemment la transition écologique, c'est vraiment un grand changement dans toutes les composantes de notre société. Et donc, ça vient affronter tous ces lobbies, dont le pire des lobbies, le lobby de l'immobilisme, qui est le plus fort parmi tous les lobbies. Et voilà, c'est un ministère où on doit changer vraiment les choses. Et donc, c'est un ministère très complexe, parce que ça veut dire changer de façon de voir les choses.
Ouais, mais alors, avec une ministre à mi-temps qui garde le ministère des Transports, ça colle alors, pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, Mathieu Orphelin.
Elisabeth Borne, ce qui aurait été très négatif, c'est que les transports soient séparés du ministère de l'écologie et de la solidarité.
Ils étaient déjà ensemble.
Ils étaient ensemble, donc là ça reste ensemble. Ça c'est très important. Et Nicolas Hulot l'avait gagné au début du quinquennat, vraiment sur le fil.
En mettant le transport sous sa coupe.
Voilà, c'est hors de question que je rentre au gouvernement si jamais j'ai pas les transports. Et déjà à l'époque, il y avait eu des tentatives de certains de dire non, les transports c'est à part. Non, évidemment que les transports c'est inhérent et c'est un des gros sujets de la transition écologique et solidaire. Là on a une équipe de 3 ministres resserrés, donc Elisabeth Borne et 2 secrétaires d'État. Je pense que ça aurait été mieux, évidemment, que l'équipe peut-être reste à 4 ou s'élargisse, mais je crois qu'on n'est pas à la fin. Moi, j'imagine bien que le gouvernement, à la rentrée, va renforcer cette équipe-là. C'est impossible. impossible, à mon avis, enfin en tout cas ce sera difficile à 3, pas impossible, mais je crois que ce serait plus fort avec 4 ou 5 titulaires dans ce pool de ministère de l'écologie et de solidarité. Je dis ça d'autant que je ne suis pas du tout candidat, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, mais je crois que l'enjeu pour le gouvernement aujourd'hui, c'est de renforcer l'écologie, c'est pas d'affaiblir encore plus l'écologie.
Ben ça en prend pas le chemin, en tout cas ça donne pas l'impression. Mais ce que vous venez de nous dire en est l'exemple.
Écoutez, moi le Premier ministre, il nous fait 20 minutes de discours de politique générale sur l'écologie, un thème qui est quand même pas son thème de base. D'ailleurs il le reconnaît, il dit voilà je m'y suis mis tard, etc. Maintenant, le gouvernement, s'ils n'entendent pas les alertes des scientifiques, s'ils n'entendent pas surtout cette formidable prise de conscience des citoyens partout sur le territoire, des jeunes, des moins jeunes, etc., à la rigueur, ce sera tant pis pour eux. Hein, parce qu'aujourd'hui, la demande de plus d'écologie, de plus de solidarité, elle est là. Et enfin, les citoyens se mobilisent, chacun à sa façon. Voilà, donc j'espère bien que le gouvernement va entendre ça, pas simplement pour verdir leur discours, mais pour dire, voilà, le projet de loi de finances 2020, voilà ce qu'on va faire en plus sur l'écologie, voilà. Et c'est ça qu'on attend maintenant, des actes forts.
Sinon quoi ?
Sinon ils louperont un des plus grands rendez-vous de l'histoire. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que tout ça ne nous fait pas constater, Mathieu Orphelin, que le combat se situe de plus en plus ailleurs qu'à l'hôtel de Roquelaure, siège du ministère? On a créé un haut conseil pour le climat, un conseil de défense écologique, on a aussi une convention citoyenne pour le climat, sur laquelle d'ailleurs le gouvernement a tendance à se défausser. On voit bien que le politique est à la remorque de la société civile, des ONG, de Greta qui va venir faire la leçon à l'Assemblée la semaine prochaine.
Nous l'avons invité avec le collectif Accélérons la transition écologique et solidaire. Elle vient. C'est le thème mardi prochain à l'Assemblée, c'est regards croisés entre la jeunesse, effectivement Greta Thunberg, trois jeunes aussi français mobilisés sur le climat, les scientifiques, le GIEC, Valérie Masson-Delmocq sera là, et les députés. C'est ça l'esprit, effectivement, d'échanger entre la jeunesse, les scientifiques et les politiques. Mais vous avez raison, les politiques, dans leur grande majorité, sont en retard sur ces sujets de transition écologique. Ils voient bien pour la plupart que c'est un sujet très important, mais dans la traduction de cette prise de conscience dans les actes politiques, beaucoup n'y sont pas encore. Il faut une radicalité de l'action en politique. Et c'est là aujourd'hui où se joue... Moi, je dis à tout le monde très bien que la société se mobilise. On a besoin de ça, la société en avance, mais surtout... Ne baissons pas les bras en politique. La politique, c'est un endroit où on peut changer les choses, où on vote les lois, où on peut changer la vie des gens. Et donc, c'est très important de surtout ne pas se dire ça se passera ailleurs qu'en politique. La politique doit être un des leviers d'action pour réussir cette transition.
Mais c'est bien ce qui va se passer du coup mardi. Greta Thunberg, donc, qui va arriver effectivement à l'Assemblée mardi, 15 ans, hein, la jeune lycéenne suédoise. C'est elle qui montre que c'est l'écologie politique aujourd'hui.
En tout cas, elle a eu un rôle formidable dans la mobilisation de la jeunesse. C'est pas que elle, c'est aujourd'hui des millions de jeunes mobilisés sur le terrain. À Angers, on avait 3500 jeunes, lycéens, etc. dans la rue avec une énergie folle. C'était absolument génial. Et elle symbolise un peu. Moi, je redis souvent, attendez, c'est juste une jeune fille de 16 ans, effectivement. C'est pas un chef d'État, c'est pas un leader de parti, etc. À chacun son rôle, mais elle a été un détonateur génial dans cette mobilisation des jeunes. Donc, c'est très important que les politiques entendent cette nouvelle génération. Et il y a beaucoup de jeunes Français mobilisés. Il y en a 3 qui interviendront avec Greta Thunberg mardi à l'Assemblée. Mais entendent ce message de cette jeunesse qui a compris la radicalité nécessaire, qui a compris l'urgence, qui est prête à changer et qui dit aux politiques à vous de prendre vos responsabilités. Ça sert à rien de nous dire d'aller étudier si jamais vous nous détruisez notre futur. C'est ça la vraie question. Eux, ils ont lu le rapport du GIEC. Eux, ils savent l'urgence à agir, qu'il faut baisser pour un pays comme la France les émissions de 6% par an dans les 10 ans à venir. C'est ça la réalité des chiffres. Et aujourd'hui, ça devrait être la pierre angulaire de toute décision politique. Est-ce que cette décision, elle nous amène vers la solidarité et l'écologie? Est-ce qu'on est bien sur la bonne trajectoire? Et c'est vraiment une fois que les politiques auront cette pleine conscience des défis écologiques qu'enfin ils pourront prendre les décisions à la hauteur.
Vous dites, eux, ils ont lu le rapport du GIEC, ça veut dire que vos collègues à l'Assemblée ou au Sénat, collègues parlementaires, n'ont pas lu tous le rapport du GIEC, ne sont pas informés ou...
Je pense qu'un certain nombre n'ont pas pris le temps vraiment de prendre cette pleine conscience de ce qui est dans ce rapport du GIEC, sur notamment quelle est l'incidence sur les, enfin, quel doit être le bon rythme pour arriver à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de prise de conscience de ce que ça peut impliquer, de ce que ça doit impliquer dans l'action politique. Ça, c'est clair. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les politiques, etc. Mais oui, il n'y a pas eu assez de travail. Et d'ailleurs, ce lien entre politique et scientifique, il est trop distendu aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à retisser ça sur le climat avec le GIEC, sur la biodiversité avec l'IPBES, etc. Il faut vraiment qu'on arrive à faire que cette pleine conscience écologique soit mieux partagée dans le monde politique, parce que du coup, les actions après seront plus évidentes, même les actions difficiles, même les actions radicales. Mais on a encore cette ligne de crête pour réussir une sorte de transition en catastrophe.
Vous parliez d'un électrochoc au moment de la démission de Nicolas Hulot, dont vous êtes proche, Mathieu Orphelin. Vous espériez que ça allait le provoquer, mais d'électrochoc, il n'y a pas eu, donc si on vous entend bien.
Non, pour l'instant, ce qui a fait que Nicolas Hulot est parti, ce qui a fait que je suis parti quelques mois après, c'était simplement de reconnaître, et c'était un devoir de vérité, que nous n'étions pas au bon rythme. Maintenant, ça progresse. Par exemple, une contribution écologique sur les billets d'avion, que moi, avec quelques dizaines de collègues, on avait plaidé sans succès pendant la loi mobilité. La ministre, d'ailleurs, à l'époque, Elisabeth Borne, et d'autres nous avaient expliqué que c'était pas possible, etc. Un mois et demi après, le gouvernement décide de mettre en œuvre cette contribution de l'aérien pour financer les modes de développement plus vertueux et les infrastructures de transport. C'est exactement ce qu'on proposait. Tant mieux, même si c'est dans un timing un peu bizarre, ça va dans le bon sens. Il faut vraiment, moi je note à chaque fois que ça va pas assez vite, mais je note aussi toutes les avancées. Et là, si le gouvernement se mettait dans les semaines à venir vraiment sur une nouvelle trajectoire, si les arbitrages du projet de loi de finances étaient très bons, j'ai quelques inquiétudes sur plein de dispositifs pour aider les Français. J'ai l'impression que sur le crédit d'impôt qu'on va transformer en prime pour les travaux de rénovation énergétique, j'ai l'impression que Bercy veut en profiter et le Premier ministre pour diminuer l'enveloppe. Et ben ça, c'est inacceptable, on se battra contre ça. Sur la prime à la conversion pour aider les gens à changer de voiture, moi je veux bien qu'on la rende plus écologique, plus efficace, etc. Mais je veux pas qu'on en profite pour réduire drastiquement l'enveloppe attribuée à cette prime. Vous voyez, moi je suis à chaque fois dans le très concret, mais on se battra combat après combat pour que ça avance dans le bon sens et qu'il y ait le moins d'écart possible entre les beaux discours, les grands discours et la réalité de l'action du gouvernement.
Elisabeth Borne, pour faire plier Bercy, parce que c'est ça l'enjeu maintenant de l'écologie politique en France, c'est le bon choix, c'est la bonne incarnation.
Elle a beaucoup de qualités, notamment elle a une capacité de travail énorme. Elle a toute l'expérience, un certain nombre de postes, directrice de cabinet de Ségolène Royal, on préfère...
Jean. La question, c'est la surface politique pour faire plier Bercy. Est-ce qu'elle l'a ?
L'enjeu pour elle, ça va être peut-être de sortir de son rôle habituel de grande serviteur de l'État, très légitimiste, etc., pour maintenant incarner complètement ce combat. Et ça veut dire aller gagner des arbitrages, ça veut dire aller contourner les arbitrages quand ils sont trop négatifs, etc., se battre. Pour l'écologie, c'est aussi un grand combat politique et ça bouscule les habitudes des conseillers ministériels, du Premier ministre, d'un certain nombre d'autres acteurs de la République. Et donc, il va falloir que tout ça se traduise par des victoires fortes, emblématiques, que les citoyens comprennent et aussi par des avancées. Mais moi, je ne demande que à ce que ça marche et je souhaite pleine réussite à Elisabeth Borne, évidemment.
Alain Beaugrain-Dubourg, qui s'exprimait hier après la démission de François de Rugy, expliquait que pour l'instant, les seules victoires des défenseurs de l'environnement, c'est quand ils réussissent à éviter une défaite.
Je comprends ce qu'il veut dire. Il y a des fois où on arrive à avancer. Je vous ai donné l'exemple du secteur aérien. On a inscrit l'urgence écologique et climatique dans la loi. Sur la rénovation énergétique, on a avancé un petit peu, etc. Moi, ce qui me gêne, c'est pas que... Mais effectivement, il faut se battre tout le temps. Et ça, depuis 2 ans, c'est vraiment là. Jamais on ne peut être tranquille. Il faut se battre sur tous les sujets. Mais il y a quelque chose, moi, que j'arrive toujours pas à comprendre au bout de 2 ans, c'est que le gouvernement, à chaque fois, se refuse les grandes avancées claires. Et pourtant, elles sont bonnes pour l'écologie, pour la solidarité, etc. Et souvent, c'est dans la difficulté. Et je crois que ça traduit aussi le manque d'appropriation de ces sujets par un certain nombre de membres du gouvernement.
Merci Mathieu Orphelin, député ex-LREM du Maine-et-Loire. Merci d'être venu ce matin sur France Culture.